Le rendez-vous du libraire. Le rendez-vous du libraire, une émission proposée par la librairie de la Trinité et animée par Agathe de Grey.
Chères lectrices, chers lecteurs, tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce. La rentrée littéraire de janvier nous accaparera bientôt, mais dans l'intervalle se tient l'épiphanie. Et il se trouve que ce 6 janvier, un livre très étrange est enfin publié au format poche. Le quatrième roi mage, premier roman publié du français Antonio Exposito. L'occasion étant par trop belle, je vous emmène cet épisode-ci à ma suite sur les traces des réécritures de la Nativité. Et pour faire bonne mesure, j'ai décidé de convier Victor Hugo et Michel Tournier aux côtés de ce nouvel auteur fraîchement édité. Suivons un temps Gaspard, Melchior et Balthazar avant de nous tourner vers de fantastiques quatrième roi mage. Personnage manquant, éternel retardataire, parti ou arrivé trop tard et qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'à l'évangile de Matthieu. Ne nous reste que trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Vaste sujet déjà, dont le célèbre Michel Tournier a fait son miel dans un roman dupliqué qui existe sous sa forme la plus littéraire comme la plus ramassée, destinée à la jeunesse, sous le nom Les Rois Mages, adaptation jeunesse que l'auteur avait déjà fait pour son roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique, adapté sous le nom Vendredi ou la Vie Sauvage. Le roman de Michel Tournier se présente en 7 chapitres, chacun consacré à son propre personnage, et cependant tourné vers le même voyage, la même recherche. Tout commence avec Gaspard, roi de Méroé, qui emmène dans son voyage la question de la peau d'Adam et d'Ève, de l'amour et de la ressemblance. Tout dans le récit de Gaspard parle de l'image, de la comète aperçue par son astrologue avec sa chevelure blonde ou dorée, venue annoncer une femme ou peut-être un ange. Et sous la plume de Tournier, l'encens de l'alcôve devient le possible symbole d'un autre amour. Le roi fou amoureux, qui part pour se guérir, rencontre bientôt la caravane de Balthazar, étourdi, lui, par la question de la mortalité de la chair. Ce roi-ci suit aussi sa comète, un papillon de feu, écho des papillons éphémères qu'on lui apprend à enfumer de myrrhe pour les préserver morts des outrages du temps. Avec son bloc de myrrhe, onction des embaumeurs d'Égypte, Balthazar rêve à la mortalité et à l'immortalité. Bientôt, son récit cède à celui de Melchior, roi que Tournier fait pauvre et qui vient les mains chargées d'or. Tournier ensuite quitte les rois mages pour un temps, lorsqu'ils sont conviés à rencontrer Hérode. Là, on leur fait le récit de Barbe d'or, puis l'on traverse la pensée d'Hérode avant de retomber petit et d'écouter le récit de l'âne et du bœuf. Six récits, six départs, six voyages. Six créatures hantées de questions très humaines et qui suivent la comète du cœur en espérant y trouver réponse. Et un septième. Tout l'art de Tournier réside sans doute dans ce septième récit. Tahor, prince de Mangalore, tenu par sa mère régente dans les plaisirs et les divertissements, destiné à être détourné indéfiniment du trône, reçoit un jour un nouveau délice qui manquait encore à ses papilles très instruites. Un unique loukoum, venu de loin. Le prince s'agite, lui qui vénère le sucre, cherche la recette de cette confiserie ultime. Et voilà qu'on lui parle d'un homme à venir, qu'on prophétise la venue d'une nourriture transcendantale, si bonne qu'elle rassasierait pour toujours. Convaincu, Tahor se lance dans le lent voyage vers celui qu'il nomme le divin confiseur, encore à naître. Mais au détour de sa route, de pierre d'achoppement aux mines de sel, le sucré prince Tahor découvre le sel, les regrets, la douleur. Et d'aventure en aventure, sa route prend du retard, tant de retard qu'il n'en peut plus compter. Fable merveilleuse, les sept récits de Tournier, qui n'en forment qu'un, explorent l'épiphanie d'une façon bouleversante. De la naissance du Christ, on ne voit jamais rien. Sa venue est un événement qui échappe au lecteur, mais au travers de ses voyages, ses hommes qui partent pour apprendre, pour répondre, pour étancher, Tournier fait peut-être plus fort, nous parle d'existence dont le sens se dérobe sans cesse, d'hommes tourmentés par les questions originelles. Si vous ne le connaissez pas encore, emparez-vous sans tarder de Gaspard, Melchior et Balthazar de Michel Tournier pour vivre l'épiphanie comme jamais encore.
Le rendez-vous du libraire. Les nouveautés de la semaine.
Nouveauté de cette semaine, raison pour laquelle j'ai placé aujourd'hui cette chronique sous l'égide de l'Épiphanie, je vous propose de découvrir un livre publié ce vendredi au format poche, Le Quatrième Roi Mage, premier roman édité du français Antonio Exposito. Publié à l'origine dans la toute jeune maison d'édition du Penseur en janvier 2020, cet ouvrage, pas comme les autres, aura mis 3 ans à nous parvenir au format poche dans la collection Folio SF. Ce roman hors du commun, qui aurait, dit-on, poussé l'un de ses lecteurs à devenir éditeur, propose la réécriture d'une histoire aujourd'hui souvent privée de sens par la force du commerce. Le Quatrième Roi Mage, c'est le récit fait par un ange à un enfant qui ne croit plus au Père Noël. C'est l'histoire de 4 anges partis chercher 4 hommes pour être témoins d'un grand miracle. De ces 4 témoins, nous dit l'ange, les hommes n'en retiendront que 3. Pourtant, le quatrième est un prince viking, décidé à suspendre les massacres de son armée, qui vient s'échouer en territoire inuit pour échapper à son sanglant passé. L'ange le trouve là, au milieu des terres gelées aux confins du monde, et il annonce sa mission. Avant l'aube, il devra être témoin d'une naissance. Dans une plume neuve, bouleversée et bouleversante, Antonio Exposito nous emporte dans cette réécriture du cheminement des rois mages et de la légende du Père Noël. Il est vrai que des rois mages, la Bible ne dit pas grand-chose. Seul l'évangile de Matthieu mentionne ces mages et énumère l'or, la myrrhe et l'encens au nombre de leurs présents. En déduction peut-être de ce triple cadeau, la postérité et d'autres écrits ont nommé 3 rois mages, mais le doute reste permis. Combien de mages ont été avertis de la naissance du Christ? Combien ont suivi la comète? Combien enfin se sont perdus en route ou bien ont été retardés par leur périple et sont arrivés en retard? Comme Michel Tournier, Antonio Exposito explore cette possibilité du roi mage inconnu, du roi mage oublié, et il s'adonne à cette expérience littéraire dans un style inédit, profondément poétique, qui invite à une lecture par le cœur et le rythme, en folâtrant aux limites de la grammaire et de nos habitudes de lecteur. Je vous invite à vous plonger dans ce texte éprouvant qui propose une réécriture neuve de l'histoire du Père Noël. Prince sucré de Michel Tournier ou viking d'Antonio Exposito, quel quatrième roi mage choisirez-vous pour cette épiphanie?
Le rendez-vous du libraire. Le coup de cœur de la semaine.
Puisqu'il est question de réécriture biblique, me voilà l'envie de vous parler d'un texte inachevé, inconnu le plus souvent, de Victor Hugo. Dans la continuité de Milton et de son long poème épique « Paradise Lost », le paradis perdu, traduit en France par Chateaubriand à l'époque, Hugo lui-même s'est lancé dans le grand projet, qu'il ne finira pas de son vivant. Comme suite de la légende des siècles, le poète avait commencé un long ouvrage, toujours dans ses alexandrins favoris, qu'il baptise « La fin de Satan ». Comme le paradis perdu de Milton, la fin de Satan s'ouvre sur la chute de l'archange, juste après sa faute qui n'est pas comptée, et s'attarde sur l'ineffable trajet aux confins du néant, avant de quitter l'ennemi pour compter d'autres chants, celui de Noé, mais aussi de l'ange Liberté, né de la dernière plume de Satan restée en suspens au seuil du ciel, et dont Dieu dit « Ne jetez pas ce qui n'est pas tombé ». On a dit de Milton qu'il avait, dans Le Paradis perdu, tenté de réécrire la Bible du point de vue du diable. Et c'est évidemment la veine qu'Hugo choisit de poursuivre. Il commence avec Satan, s'attache au pas de Judas, ou encore Barabbas, nous conte l'influence de la païenne Isis Lilith qui ramasse dans la fange immense du déluge le clou, la pierre et le bâton dont Caïn aurait fait usage contre Abel, son frère. Le destin de ces objets maudits se retrouve tout au long du poème, et la question du mal est sans cesse à nouveau posée. Hugo avait pour projet une trilogie de poèmes épiques. La légende des siècles devait précéder la fin de Satan, et ce livre même introduisait une dernière œuvre, intitulée « Dieu », rédigée en partie. Outre les vers titanesques de Victor Hugo, toujours dotés du même souffle épique, l'intérêt de la fin de Satan, son originalité, on pourrait dire, réside dans la façon que le poète a de lier les épisodes bibliques à l'histoire plus contemporaine. C'est le tribun aussi qui parle dans ses vers, qui loue et dénonce les grandes peines et joies de son siècle. Certains ont nommé ce poème en triptyque d'Hugo le plus grand projet de sa vie, resté inachevé. Une chose est certaine, il faut redécouvrir ces vers trop méconnus de l'un des plus grands poètes que la langue française ait jamais porté. Je ne résiste pas, en cette fin d'épisode, à vous offrir quelques vers. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime, ni lever une fois son front démesuré. Il s'enfonçait dans l'ombre et la brume, effaré, seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles, tombaient plus lentement les plumes de ses ailes. Il tombait foudroyé, morne, silencieux, triste la bouche ouverte et les pieds vers les cieux, l'horreur du gouffre empreinte à sa face livide. Il cria « Mort !» les poings tendus vers l'ombre vide. Ce mot plus tard fut « homme » et s'appela Caïn. Il tombait. Tout à coup, un roc heurta sa main. Il l'étreignit ainsi qu'un mort étreint sa tombe et s'arrêta. Quelqu'un d'en haut lui cria « Tombe !» Les soleils s'éteindront autour de toi, maudit. Et la voix dans l'horreur immense se perdit. Et pâle, il regarda vers l'éternelle aurore. Les soleils étaient loin, mais ils brillaient encore. Et c'est ainsi que je vous quitte. L'équipe de la librairie et moi-même vous souhaitons une très belle épiphanie en compagnie de 3 ou peut-être 4 rois mages. Et pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous du libraire.